À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Bruno David, biologiste et paléontologue et par ailleurs ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Quatrième épisode, une lente prise de conscience. Bonjour, bonsoir Bruno David.
Bonjour, bonsoir Caroline.
J'aimerais ce soir que nous parlions ensemble de ce livre dans lequel vous racontez le cheminement de votre sensibilisation écologique à travers différents événements qui ont fait date, c'est-à-dire comment vous avez progressivement, décennie par décennie, pris conscience de la situation environnementale, aussi bien en termes de déclin de la biodiversité que de réchauffement climatique. Ce livre s'intitule « Le jour où j'ai compris ». Le jour où vous avez compris, ça n'est certainement pas le jour de votre naissance.
Ah, non.
Le 21 septembre 1954, non seulement parce qu'effectivement c'est le jour où vous êtes né, mais aussi parce qu'il se trouve que c'est une année, 1954, particulièrement froide. Donc en termes de climat, ça n'est pas là que vous avez compris.
Non, alors vraiment pour ces deux raisons. Hein. Je ne pense pas qu'on comprenne dès sa naissance. Et puis d'autre part, en effet, les années 50 étaient relativement fraîches, mais les années 60 ont été encore plus fraîches et les années 70 encore plus fraîches. Donc c'est pour dire qu'il fallait du temps pour comprendre qu'il y avait un certain réchauffement de la planète. Mais il n'y avait pas que le réchauffement de la planète à comprendre non plus. Donc progressivement, ma prise de conscience a pu se construire.
Vous distinguez les deux choses, vous distinguez la biodiversité et le climat. Et vous expliquez à quel point dans cet ouvrage, à quel point le climat c'est quand même ce qui a longtemps résisté dans les esprits. Et pour cause, d'abord parce que, enfant, en tous les cas, vous avez connu des épisodes particulièrement froids. En effet, ces décennies 50, 60, 70 ont été les plus froides du XXe siècle. Mais aussi, dites-vous, et ça peut être étonnant pour nos oreilles d'aujourd'hui, nous vivons, dites-vous, un âge plutôt froid de la Terre.
Oui, quand on prend beaucoup de recul, c'est-à-dire qu'on se penche sur l'histoire géologique de la Terre depuis 500 millions d'années. Alors c'est très très long, 500 millions d'années. Je rappelle que notre espèce, Homo sapiens, elle a seulement un tiers de million d'années, elle a 300 000 ans. Donc vous voyez, c'est 1500 fois plus long. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'il n'y a que trois moments dans cette histoire de 500 millions d'années où il y a de la glace au pôle. Tous les autres moments sont des périodes plus chaudes que la période d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a de la glace au pôle. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est entré dans cette troisième période très froide de l'histoire de la Terre, il y a 30 millions d'années. C'est gigantesque là aussi, 30 millions d'années. Et que par conséquent, toute la biodiversité, toute la biosphère, tout ce qui nous entoure est habitué à ces températures relativement froides, avec au sein de cette période des alternances aussi entre des glaciaires très froids, des interglaciaires un peu moins froids. Nous sommes dans un interglaciaire et nous sommes en train de réchauffer un interglaciaire. Et le problème, ce n'est pas l'amplitude des températures, parce qu'en effet, la Terre a été parfois bien plus chaude qu'aujourd'hui, c'est la vitesse de transition entre une période froide et une période chaude. Et jamais les vitesses de transition dans cette histoire géologique n'ont été aussi rapides qu'aujourd'hui, et la vie a du mal à suivre cette vitesse, parce que la vitesse importe.
Donc dire que nous traversons une ère plutôt froide de la Terre n'est pas en contradiction avec la question du réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui.
Absolument
très nettement.
Pas. Absolument pas en contradiction. C'est vrai que nous sommes dans une période froide, mais toute la vie sur Terre est accoutumée à cette période froide et nous sommes en train de tourner le bouton du thermostat à toute vitesse. Et donc la vie est très déstabilisée par cela, parce que ça va simplement trop vite.
Donc, d'un point de vue du climat, il a fallu attendre les premiers rapports du GIEC, hein, le groupe d'études sur le climat, le groupe international d'ailleurs d'études sur le climat, donc les années 90, pour prendre réellement conscience de ce changement climatique qui nous concerne aujourd'hui.
C'est même plus que ça, parce que le GIEC est créé en 1988, son premier rapport est de 1990, et je me suis penché sur les 6 derniers rapports du GIEC. Alors, je rassure les auditeurs, je ne les ai pas lus in extenso, parce que ça serait vraiment énorme, mais j'ai lu tous les résumés exécutifs de ces rapports, et le premier rapport de 90 dit « il y a un réchauffement qui est en train de se manifester, et il se pourrait qu'il soit dû à l'activité humaine, on a besoin d'avoir un petit peu de recul pour en être certain ». Donc c'est pour dire que même les scientifiques du GIEC, en 1990, étaient relativement prudents dans leur approche. Donc évidemment, à ce moment-là, le grand public ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas de lui-même se dire « tiens, le climat est vraiment en train de se réchauffer ».
Il y avait quand même eu quelques alertes D'ailleurs, vous en parlez dans votre ouvrage, hein, vous ne les taisez pas. Je pense au livre de Rachel Carson en 1962, Printemps silencieux, c'est un livre américain. Je pense au livre de Jean Dorst en 1965, Avant que nature meure, au rapport Meadows en 1973, qui avait déjà tout prévu et qui donnait un certain nombre de préconisations pour éviter que les choses ne s'empirent. Et puis, il y avait évidemment la candidature et les alertes nombreuses de René Dumont en candidature à la présidentielle de 1974. Et je peux faire de 1974 un bond vers 2023, année où nous enregistrons ces émissions, puisqu'on a appris en janvier 2023 que les grandes compagnies pétrolières mondiales savaient exactement ce qui allait se passer dès les années 70. Donc on n'avait pas les clés pour comprendre, sauf si on les avait.
Non, mais c'était une petite minorité. D'abord, bon, je raconte un petit peu tout ça dans le livre, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que scientifiquement, on savait quelle était la mécanique d'un effet de serre. Ça avait été décrit, découvert, et on savait qu'à force d'injecter du dioxyde de carbone, du CO2 dans l'atmosphère et du méthane dans l'atmosphère, ça allait provoquer un effet de serre. Mais simplement, ça n'était pas ressenti, puisque c'était contrebalancé par des période de relatif refroidissement de la Terre dans les années 60-70, qui était plutôt plus froide que les décennies qui avaient précédé, et que donc on ne pouvait pas le ressentir. Quant au livre auquel vous faites allusion, il portait beaucoup plus sur la biodiversité que sur le climat. Donc, il faut relativiser aussi les choses. Le précurseur le plus emblématique pour moi, dont je parle, c'est quand même René Dumont, parce que lui, il en a commencé d'en parler dans les années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale, où il a commencé à dire qu'il pourrait y avoir des problèmes sur la vie, sur Terre, sur la biodiversité. Il était vraiment très, très visionnaire. Je ne sais pas sur quels éléments scientifiques, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas vraiment non plus la mécanique du réchauffement. Les emprises sur la biodiversité étaient encore relativement modestes. Mais il avait quand même déjà rédigé un certain nombre de textes autour de ça. Mais en dehors de ces quelques précurseurs, ça ne passait pas dans le grand public, ni même dans un public scientifique plus restreint, parce que, si on pense au climat, on ne pouvait pas le sentir. On avait froid. Donc, on nous disait, il peut y avoir un réchauffement, de l'effet de serre. Bon, ben d'accord, mais en attendant, on a froid.
Et vous, comment, Bruno David, vous l'avez ressenti? Par exemple, vous aviez 20 ans, hein, en 74. Donc, au moment de la candidature de René Dumont à la présidentielle française. Il était quand même largement perçu comme un hurluberlu à l'époque. Vous, à 20 ans, est-ce que ça vous préoccupait? Est-ce que vous étiez déjà sensibilisé? Comment perceviez-vous les choses?
Alors j'étais déjà très sensibilisé. J'étais sensibilisé depuis mon enfance aux questions de pollution notamment. C'est les premières choses qui m'ont marqué, mais vraiment dès ma relativement tendre enfance. À moins de 10 ans, j'avais déjà une sensibilisation à la pollution, au sujet de pollution.
Même si vous alliez avec vos grands-parents, vous nous en avez parlé dans une émission précédente, jeter quelques ordures ménagères dans la Loire.
Oui, comme tout le monde. Mais j'étais quand même très sensibilisé au sujet de pollution, à la pollution atmosphérique, notamment en région lyonnaise, avec ces odeurs qui remontaient du couloir de la chimie sur la ville de Lyon quand c'était le vent du sud. Et si vous me mettez 5 odeurs sous le nez aujourd'hui, à l'aveugle, je vous reconnaîtrai l'odeur de ce couloir de la chimie. Hein. C'est vraiment gravé. Hein. Donc il faut comprendre que dans les années 60-70, c'était la pollution la principale préoccupation. Qu'il y avait aussi des pressions sur la biodiversité, de l'occupation des espaces. On voyait bien qu'il y avait des autoroutes qui se construisaient, qu'il y avait des choses comme ça. Mais c'était vraiment perçu comme un progrès. Parce que finalement, ça améliorait la situation d'un certain nombre de personnes, ça facilitait la circulation. Enfin, moi, je me rappelle dans ma famille les discussions, pourtant une famille de naturalistes. Oui, c'est bien, l'autoroute A7 qui se construit entre Lyon et Marseille, c'est un progrès parce que ça nous permet d'aller plus vite au bord de la Méditerranée. C'était perçu comme cela. Les emprises sur la biodiversité directement, on le sentait à travers, par exemple, la grande faune africaine, dont on nous disait déjà qu'elle était sous tension, qu'il y avait du braconnage, qu'il y avait de la chasse. Donc on commençait de s'en rendre compte comme ça. Le sujet climat, il est venu vraiment plus tard, tout simplement parce que on ne le sentait pas, comme je l'ai déjà dit. Ces décennies étaient très froides. Moi, je me souviens de l'hiver 1963, quand j'étais tout jeune enfant. Il y a eu plus de 30 jours sans que ça dégèle à Lyon, y compris aux heures les plus chaudes de la journée. Et mon père avait démonté des bordures de massifs dans le jardin. Le jardin est en pente. Il y avait une sorte de grande descente qui partait du portail et qui descendait dans le jardin. Il avait démonté des bordures de massifs. Et avec mon frère, on a fait de la luge pendant un mois dans Lyon. Et en 1971, on est un petit peu plus tard, c'est une année où je suis opéré de l'appendicite d'ailleurs, donc je me rappelle très bien, pendant les vacances de Noël, et il a fait moins 27 à Lyon. La Saône charriait des glaçons. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui on imagine qu'il puisse faire moins 27, pas une température ressentie, hein, qui est la façon de mesurer une température avec un élastique, une vraie température, moins 27, Et les gens avaient froid, et c'était comme ça, et c'était relativement fréquent. Les hivers à moins 15 étaient la norme. Donc on voit bien à quel point la planète s'est réchauffée, à quel point ça a été rapide. Et si on imagine l'impact que ça peut avoir sur un certain nombre d'espèces, on voit bien à quel point ça peut être déstabilisant pour le fonctionnement des écosystèmes et pour pas mal d'espèces.
Alors parlons, Bruno David, de ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir l'obsession de ces années-là, puisque ça n'était pas le climat, c'était plutôt la pollution, vous disiez. Il se trouve que vous rappelez dans votre ouvrage, Le jour où j'ai compris, un certain nombre d'événements dramatiques, marées noires, catastrophes industrielles. Alors on peut en citer quelques-uns, peut-être pouvez-vous développer sur ceux qui vous ont le plus marqué, mais justement l'incendie de la raffinerie de Fezzan en 1966, la première grande marée noire de Torrey Canyon en 1967, le scandale des boues rouges de l'usine italienne Montedison en 1972, la catastrophe de Seveso en Italie en 1976, la marée noire de la Moco Cadiz en 1978 et l'accident chimique de Bhopal en Inde en 1984. Voilà quelques-uns, hein, ils sont pas exhaustifs ces exemples-là. Peut-être sur certains vous aimeriez développer la façon dont vous les avez reçus ou la façon dont vous avez l'impression que l'opinion publique a ressenti ces pollutions industrielles et ces catastrophes en termes de santé.
Juste avant de répondre à votre question, ouais. j'ai un oubli majeur dans le livre
que m'a souligné
mes collègues, j'ai oublié de Tchernobyl. C'est curieux parce que ça, c'était 86. C'était 86, ça m'a quand même beaucoup marqué,
oui.
Mais j'ai oublié d'en parler. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je me psychanalyse pour savoir pourquoi j'ai oublié Tchernobyl, mais je regrette de ne pas en avoir parlé dans le livre.
Bon, au moins là, vous le dites.
Voilà. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute le premier, l'incendie de la raffinerie de Fezzan. J'étais encore enfant. Et il y a cet événement qui survient, qui fait des victimes aussi, et qui crée un panache de fumée énorme. Enfin, alors je le vois pas directement, et puis on n'avait pas la télévision à la maison, donc j'ai pas vu d'image directement, sauf à travers la presse. Mais ça m'a vraiment marqué. Et puis la première grande marée noire, le Torrey Canyon aussi a été très marquant. On est en 67. Là, j'étais abonné à des magazines d'enfants du genre Tintin ou des choses comme ça. Il y avait quand même des articles dedans qui... j'ai vu des images de ces oiseaux mazoutés dans la presse également. Donc ça marque beaucoup quand on est vraiment très jeune. Puis ça s'est accumulé. La pire des catastrophes, c'est sans doute Bhopal, parce que c'est là où il y a un maximum de victimes. Il y a un nombre de victimes absolument considérable. Et ça, c'est Union Carbide, l'entreprise américaine, qui n'a pas non plus voulu dévoiler tout de suite quel était le produit qui s'était répandu suite à l'incendie de l'usine.
Oui, vous nous rappelez ce qui s'est passé, peut-être.
C'est-à-dire qu'il y a une usine de production de produits chimiques qui va prendre feu. Les procédures de sécurité ont été énormément allégées, parce que ça coûtait trop cher. Tout simplement. On est en Inde, c'est une usine, une entreprise américaine qui exploite cette usine. Et dans les premières heures, même les premiers jours, elle tait ce qui s'est passé. On ne sait pas quel est le type de produit chimique qui est en train de se consumer, quel est le type de nuage qui est en train de se répandre. Ça tue énormément de gens directement, ça tue énormément d'animaux directement. Et il y aura des séquelles qui vont concerner des dizaines de milliers de personnes. Et il y aura plusieurs milliers de morts suite à cet événement. Alors ça se passe loin des pays occidentaux, mais on en entend quand même beaucoup parler. Et ça, c'est un événement qui m'a vraiment marqué.
Quid du développement dans les années 60-70 de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agro-industrie, l'agroalimentaire, et donc la pollution des sols ou la surconsommation, elle ne concerne pas que l'alimentation, hein, mais la surconsommation des années 60, des fameuses 30 glorieuses. Vous avez l'air de la relativiser, vous.
Oui, parce que ce n'était pas une vraie surconsommation. La surconsommation, c'est aujourd'hui. C'est la fast fashion, c'est les choses comme ça, c'est des voyages très peu chers, c'est des déplacements de manière totalement excessive, c'est aujourd'hui que ça se passe. Dans les années 60-70, les déplacements étaient très chers. Donc on n'allait pas à New York, on n'allait même pas à Lisbonne ou à Rome. On restait dans un périmètre beaucoup plus réduit. Et la consommation de l'époque, qui paraît avec le recul absolument extraordinaire, c'était une consommation d'équipement. On s'équipait en biens d'électroménager, de réfrigérateurs, de choses comme ça. Ma grand-mère n'avait pas de réfrigérateur. Elle mettait le beurre dans un bol avec de l'eau sur le rebord de sa fenêtre quand c'était l'été. Donc, c'était ce type d'équipement qui arrivait dans les ménages. Aujourd'hui, la consommation d'équipement, elle paraît totalement normale. Il est normal d'avoir un frigo, d'avoir une machine à laver, enfin, et heureusement d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Et on a une surconsommation de vêtements, de biens culturels, de réseaux sociaux, de déplacements, de choses comme ça, qui n'existaient pas dans les années 60-70. Non pas parce qu'on était vertueux, parce qu'on aurait eu la possibilité de le faire, on l'aurait fait, simplement parce que c'était trop cher.
Et c'est donc vrai aussi pour tout ce qui est agroalimentaire, c'est-à-dire que les choses ont commencé dans les années 60-70, mais elles ont sans doute explosé plus tard, dans les années 80-90, ce qui fait, Bruno David, que peut-être la vraie bascule même peut-être pour vous, même si c'est pas un jour, c'est une décennie, en termes non seulement de réchauffement climatique, mais aussi de pollution atmosphérique et de déclin de la biodiversité, ou d'effet sur la biodiversité, c'est quand même les années 90.
Oui, alors je pense que pour le grand public, même la vraie bascule, elle est au niveau des années 2000.
Encore
pour moi, le moment charnière, c'est 2003. Il y a la canicule de 2003 et je pense qu'à partir de là, on ne peut pas dire, je ne sais pas, je doute, c'est qu'on ne veut pas savoir ou qu'on refuse de constater une forme d'évidence. Mais auparavant, c'est plus difficile. Moi, ma prise de conscience, elle date en effet des années 90. Elle est vraiment complète à ce moment-là.
La prise de conscience globale, disons.
Globale. Pollution, surexploitation des espaces, déclin de la biodiversité et changement climatique. J'en ai vraiment une conscience globale et complète à partir des années 90. Et avec ma famille, on arrive dans une maison à Dijon. On déménage d'un appartement dans une maison en 1993. Et un de mes soucis, c'est d'isoler les combles de la maison de manière à se protéger de la chaleur. Alors qu'on est en Bourgogne, une région qui est quand même réputée assez froide. Et mon souci, c'est de se protéger de la chaleur. Donc je vais voir sur les sites du bâtiment, enfin il y a un site comme ça, Internet, qu'on peut consulter, et je multiplie tous les coefficients par 2 pour être sûr que la maison soit le mieux protégée possible de la chaleur, ce qu'elle est encore aujourd'hui.
Bruno David, il y a un choc pour vous aussi, que vous racontez, qui date justement de la fin de cette décennie 90, qui est sans doute, en tous les cas, c'est comme ça que vous le présentez dans votre ouvrage, votre plus gros choc personnel, parce que c'est un choc à tout niveau. Vous étiez très surpris de voir ce que vous avez vu, et cela vous a particulièrement effrayé. Vous voyez ce à quoi je fais allusion ?
Très bien.
Ça se passe au large du Pérou ?
En 99, où je fais cette plongée avec le sous-marin jaune de l'Iframer, avec le Nautil, on est au large du Pérou, on est au large de nulle part, c'est-à-dire c'est une partie du Pérou relativement désertique, il n'y a pas d'émissaire fluviatile, il n'y a pas d'agglomération, et on est assez loin au large. Puisque je plonge à 2500 mètres de profondeur sur ce qu'on appelle la subduction, c'est-à-dire c'est la plaque pacifique qui va plonger sous la plaque sud-américaine et qui crée du volcanisme, enfin une certaine activité tellurique autour de ça. C'est une mission globalement géologique et le chef de mission, le chef scientifique de mission m'a invité à bord parce qu'il y a des oursins intéressants qui sont à ce moment-là, je suis le seul biologiste à bord. Et donc je plonge avec ce Nautil. La descente en Nautil, elle se fait dans l'obscurité, elle dure à peu près une heure pour descendre à 2500 mètres, puis on commence à naviguer, on éclaire les projecteurs quand on arrive au fond, on commence à naviguer au fond, et au bout d'un certain nombre de minutes, alors je me souviens plus exactement, un quart d'heure, 20 minutes, c'était plutôt au début de la plongée, on tombe, les projecteurs du Nautil éclairent un seau en plastique, beige, posé sur le fond avec une petite corde attachée à son anse. Et là, je vois ce seau au large du Pérou, on est à 2500 mètres de profondeur. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y en a partout. Ça m'a vraiment... Alors, traumatisé, ça serait sans doute excessif, mais ça m'a vraiment marqué, quoi. Ça a été un signal où je me suis dit, bon, j'avais déjà compris, mais là, ça a été plus que comprendre. J'avais la preuve que j'avais raison et que l'emprise humaine sur la Terre était vraiment, enfin, extraordinaire, au sens où c'était pas ordinaire d'avoir une emprise de ce point de vue-là. Et en étant un extraordinaire péjoratif, bien sûr.
Vous faites partie d'une génération, Bruno David, qui, malgré tout, est perçue, en tous les cas, par les plus jeunes d'aujourd'hui. Je généralise, mais évidemment, il y a des exceptions, comme une génération fautive. Vous êtes les boomers. D'ailleurs, votre livre commence comme ça, hein, accusez boomers, levez-vous. Comme une génération fautive, responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Or, tout ce que vous nous dites tente à relativiser le poids de cette responsabilité de cette génération, puisqu'ils sont généralement et régulièrement tensés par les plus jeunes qui leur reprochent vraiment leur responsabilité. Vous, quand on vous entend, ça n'est pas excuser, mais c'est relativiser la responsabilité de... Alors, vous, personnellement, puisque ce livre est aussi personnel, mais plus généralement, cette génération. C'était une volonté de plaider non coupable et d'inviter à plus d'indulgence les uns envers les autres, ce livre aussi ?
Je reprendrais bien la formule classique, responsable...
Pas coupable.
Mais pas coupable. Parce Parce qu'en fait, on est responsable effectivement de ces actes, mais on n'avait pas les clés de compréhension. Il faut bien avoir en tête qu'on a, dans les années 60, 70, même 80, on n'avait pas les clés de compréhension de ce qui était en train de se passer.
Et celles qui existaient étaient minoritaires, voilà. Elles ne passaient pas la barre du grand public.
Les clés existaient, mais elles n'étaient pas accessibles au grand public. Donc, de fait, c'était difficile de changer de comportement. À partir d'une certaine limite, et j'ai fixé la limite à 2003, parce que c'est cette canicule qui marque peut-être un moment particulier, qui reste dans les mémoires, à partir de ce moment-là, on n'a pas le droit de ne pas comprendre. Avant, on ne pouvait pas comprendre. Au-delà de cette limite, c'est qu'on ne veut pas comprendre. Donc il y a quand même un moment charnière. Et ce qu'on peut reprocher aux boomers, c'est de ne pas avoir changé. C'est les boomers qui n'ont pas changé de comportement, c'est ennuyeux. Mais il faut aussi éviter d'essentialiser. Tous les boomers ne sont pas monstrueux et tous les millennials ne sont pas...
Je pense que j'ai dit en généralisme, mais attention, il y a bien sûr des exceptions.
N'essentialisons pas surtout et ne mettons pas tout le monde dans la même boîte de manière uniforme. Il y a des jeunes d'aujourd'hui qui sont dans une frénésie de consommation absolument ahurissante. Je fais régulièrement des conférences devant des lycéens. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence à Annonay devant 270 élèves de classe de terminale.
Dans l'Ardèche.
Et c'était l'après-midi et je leur ai demandé, j'ai demandé à ceux qui n'avaient envoyé aucun SMS depuis le matin de lever la main. Aucun des 270 élèves devant moi n'a levé la main. Et je leur ai dit, vous savez que 12% de l'électricité produite en France est utilisée pour les réseaux et pour l'informatique. 12% de la production électrique française. Donc vous avez un impact énorme. Et cet impact, vous ne le ressentez pas, parce qu'il ne se voit pas, il n'est pas perceptible. C'est le cloud, il est dans les nuages. Et pourtant, ça a un impact écologique absolument majeur, qui est en train de devenir un impact majeur, quels que soient les moyens par lesquels on puisse produire cette électricité. Donc faites attention à ce que vous faites, dans vos actes d'achat aussi, quand vous sortez de tel ou tel magasin. Ben, vous voyez des jeunes qui sortent avec des sacs pleins de vêtements, qui ont des piles de t-shirts et qui les jettent. C'est vraiment la fast fashion. Et ça n'existait pas. Je rappelle dans le livre que c'est à 21 ans que je me suis acheté mes deux premiers pulls en magasin. Que jusqu'à présent, tous les pulls que je portais étaient tricotés par ma grand-mère. Et on avait, avec mon frère, une armoire qu'on se partageait et où il y avait tous nos vêtements d'hiver et d'été pour deux personnes. Et c'était pas une armoire gigantesque. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans la même relation à la consommation qu'on était auparavant. Vous parliez de nourriture tout à l'heure. J'aimais pas ça du tout. D'ailleurs, j'allais au marché avec ma grand-mère. Ça me cassait un peu les pieds de faire tous les étals du marché les uns derrière les autres. Et on achetait forcément des produits locaux et des produits de saison. Ça ne nous serait pas venu à l'idée de... Enfin, on ne pouvait pas, de toute façon. Ça n'existait pas. Ça commençait à peine d'exister dans les supermarchés qui naissaient à cette époque. Alors qu'aujourd'hui, le succès de tel ou tel livreur de marchandises, on voit bien que les gens, ils achètent, ils préparent pas à manger eux-mêmes, ils vont commander de la nourriture pour le soir, c'est de la nourriture préformatée. Quand on va dans n'importe quel rayon d'une supérette dans Paris ou ailleurs, pratiquement tout est sous plastique. Enfin, c'est assez ahurissant. Donc on a vraiment une consommation, on a des marges de progrès énormes et sans revenir en arrière totalement, parce qu'il y a aussi des progrès d'hygiène qui ont été faits, il y a vraiment moyen quand même, sans changer notre mode de vie, sans se bouleverser, de progresser et de mieux se comporter vis-à-vis de la planète.
Donc l'idée, Bruno David...
Toutes générations confondues.
Absolument, justement. C'est de dire que c'est tous ensemble et qu'on est chacun le produit de son époque.
On est chacun le produit de son époque, on n'arrive pas à s'extraire de son époque. Comme je le dis, les millennials d'aujourd'hui utilisent les réseaux parce que les réseaux existent. Si les réseaux sociaux avaient existé en 1970, je les aurais utilisés. Donc je ne suis pas plus vertueux qu'un autre. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas plus vertueux que ne l'étaient aussi certains de leurs prédécesseurs. C'est ça qu'il faut arriver à relativiser. Et je termine le livre aussi en disant que la situation est trop sérieuse pour qu'on perde de l'énergie à s'invectiver les uns les autres. C'est de la perte d'énergie, c'est de la perte de temps. Il y a autre chose à faire que ça. Et ce qu'il y a à faire, c'est d'essayer de voir tous ensemble comment est-ce qu'on peut arriver à améliorer les choses et à changer collectivement de comportement, où sont nos marges de progression, et il y en a, à l'échelle collective, à l'échelle individuelle. Alors allons-y, retroussons les manches, il y a urgence quand même.
Oui, l'idée c'est vraiment de sortir de l'opposition factice entre les 10 boomers et les 10 générations climat.
Oui, c'est ça, et puis c'est stérile.
Qui n'existe pas vraiment.
Et puis pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose surtout. On passe son temps à se critiquer mutuellement, ça crée des crispations qui sont inutiles. Si vous voulez, c'est un boomer standard qui n'a pas trop voulu changer. Si on va vers lui en lui criant dessus, pour parler poliment, il va se raidir et il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que cet abruti qui me crie dessus, il connaît rien, il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, qui me fout la paix et qui me laisse rouler tranquille avec mon gros 4x4 ». Il faut essayer de convaincre. Sinon, sans quoi, on se heurte à un mur et généralement on rebondit sur un mur et on recule plutôt que d'avancer. Donc c'est ça que j'ai tendance à prêcher, c'est la conviction. Alors certes, c'est pas l'urgence de la situation fait que c'est pas toujours à 100% satisfaisant, il y en a qui voudraient aller plus vite, mais je pense qu'à vouloir aller trop vite, finalement on perd du temps.
Quel est le rôle, Bruno David, d'un biologiste, paléontologue, naturaliste comme le vôtre ?
Alors je pense que mon rôle, c'est d'être dans la rationalité, d'essayer d'apaiser les choses, de faire en sorte qu'on sorte des débats d'opinion, où simplement un affiche son opinion et l'autre affiche une autre opinion, et en disant c'est ça et c'est pas autrement. C'est d'essayer d'avoir un discours rationnel, un discours qui pose les bases, qui analyse la situation d'aujourd'hui, qui la mette en référence avec ce qui s'est produit dans ce passé géologique de la Terre, dont on a déjà parlé, de manière à avoir un référentiel, et sur la base de ce référentiel, de voir est-ce que la situation est grave ou est-ce qu'elle n'est pas grave. Est-ce que c'est grave, docteur ? Jusqu'où va-t-on ? À quelle vitesse y va-t-on ? Et face à cela, quelles sont nos marges d'action et qu'est-ce qu'on peut faire ?
Votre livre est adressé à des enfants de dates très précises, hein ? Oui. 2017, 2020, 2021. Je suppose que c'est l'année de naissance de vos petits-enfants.
Exactement.
Quel message aviez-vous envie de leur transmettre ?
Ben, j'ai envie de... D'abord, je vais leur dédicacer, ce n'est pas encore fait, mais à chacun un livre qu'ils pourront lire quand ils seront plus grands. Ça sera une sorte de... Pas de testament, ce sera quand même un peu trop triste, mais une sorte de vadémécum que je leur transmettrai pour éventuellement nourrir leurs réflexions quand ils seront devenus en capacité de le comprendre, puisque à travers les dates, vous avez compris qu'ils sont quand même encore assez jeunes et qu'ils ne sont pas en capacité de lire cela. Non, mais le message que j'ai à leur transmettre, c'est aussi ce témoignage générationnel. Il y a une forme de passation de relais. Et je pense que les gens de la génération climat sont complètement sensibilisés parce qu'ils se sentent concernés pour leurs avenirs à venir. C'est leur avenir qui est en jeu. Donc ils sont, pour un certain nombre d'entre eux, très sensibilisés à ça. Et je comprends parfaitement leur angoisse. Mais je pense que les gens de ma génération, les boomers, s'ils ont un petit peu de plomb dans la cervelle, ils peuvent aussi être sensibilisés, être angoissés pour leurs petits-enfants. C'est pour cette raison que j'ai cité ces trois dates, pour montrer qu'on doit se préoccuper des générations à venir, et que si on se préoccupe un minimum de ses petits-enfants, ben on doit se préoccuper de la planète.
Et comment on fait quand on a des petits-enfants ? Alors les vôtres, là, ils sont trop petits peut-être, mais des enfants, on l'a entendu depuis la pandémie de Covid-19 par exemple. Comment fait-on avec des enfants qui aujourd'hui éprouvent ce qu'on appelle une éco-anxiété ? Comment fait-on pour être sensibilisé, préoccupé, mais sans transmettre de la peur ou sans ajouter de la peur à la peur ?
Mais je pense que le meilleur moyen de faire, c'est de montrer qu'on a des marges d'action, qu'on peut agir, notamment pour la biodiversité. Il y a moyen d'agir. Cette biodiversité, elle est résiliente. On en a déjà parlé dans une émission précédente. Elle est bonne fille, comme dit Isabelle Autissier. Donc, il y a moyen d'agir. C'est-à-dire qu'on n'est pas sans moyens. Et qu'il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas se désespérer. La situation n'est pas bonne. On ne va pas dire qu'elle est bonne. Mais elle n'est pas non plus, pour la biodiversité, totalement désespérée. Donc, allons-y, agissons. Nous sommes à l'origine du problème. C'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que nous sommes aussi à l'origine des solutions. Que si c'était une énorme météorite qui était en train de nous foncer dessus, on n'y pourrait pas grand-chose. Que si c'était un énorme épanchement volcanique au milieu de tel ou tel océan, on n'y pourrait pas grand-chose et ça bouleverserait finalement la planète. Là, c'est nous la cause du problème. Comme on est la cause du problème, on est à l'origine du problème, on a aussi la solution entre nos mains. Alors allons-y.
Merci Bruno David. On se retrouve pour l'épisode 5 à la tête du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Merci, au revoir.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Benjamin Thiot, réalisation Charlotte Roux, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.